La sincérité dans la confession. Écoute-moi, mon ami, dit Jésus, n'attendez pas la dernière heure pour faire le bien, afin de ne pas vous retrouver les mains vides quand l'époux viendra. Faites le bien pendant qu'il est temps, humiliez-vous après chaque chute et poursuivez courageusement. Soyez sincères avec vous-même pour mieux connaître vos défauts. Soyez sincères avec Dieu en les lui avouant et en les détestant dans le sacrement de la confession. Voici une qualité très importante que tu dois apporter au tribunal de la pénitence, la sincérité. Tu sais que le sacrement de la confession a été institué par moi après ma résurrection. Tu sais qu'au confessionnal, mes ministres ne sont que mes représentants qui ont le devoir d'exercer ma miséricorde et d'absoudre vos péchés. Vous ne devez donc pas vous soucier de les cacher, mais prenez intérêt à les avouer pour que je puisse vous les pardonner. La sincérité dans la confession est un signe d'humilité. L'idée que mon ministre puisse ensuite penser du mal de vous ne doit pas vous intimider. Il ne pourrait le faire sans manquer à ma loi de charité. Et puis, quel intérêt auriez-vous à ce que les autres pensent du bien de vous, serait-ce même votre confesseur, qu'en n'usant pas de sincérité, vous pouvez certes rencontrer la bienveillance et l'estime d'une personne, mais non la mienne. Car je scrute l'intérieur et je vois tout jusqu'au fond, je vois chaque péché avec toute sa malice. Usez de sincérité. Usez de sincérité dans ces sacrements, cela revient à jeter vos misères dans mon cœur, dit Jésus, à les jeter au complet et à vouloir leur destruction. Scrutez bien votre cœur quand vous vous préparez à recevoir ce sacrement et cherchez la cause du mal. Un péché que vous détestez sous un aspect déterminé peut présenter une racine bien différente. Je vous l'explique. Une personne peut voler pour différents motifs et c'est le motif qui compte. Une autre peut médire et elle peut être poussée par divers autres défauts à commettre cette faute. Que l'on supprime ses défauts et la médisance, elle aussi sera éliminée. On peut médire par exemple par vanité, par envie, par habitude décommérée, etc. C'est pourquoi il n'est pas tellement nécessaire de dire le péché que de découvrir son origine. Si l'on supprime la racine du mal, tout le reste est éliminé. Quand vous allez vous confesser, vous allez chez le médecin. Ce n'est pas à lui qu'il conviendrait de cacher vos maux. Et vous n'y tenez certainement pas, car vous avez le désir de guérir. Et le traitement sera plus efficace si après la description de vos maux, le médecin vous connaît mieux. Si tu veux vraiment soigner tes maux spirituels, expose-le à mon ministre et conforme-toi à ses conseils. Par là, je n'entends pas dire qu'en vous confessant, vous ayez à entrer dans les détails qui peuvent blesser l'oreille du confesseur, mais seulement j'insiste pour que tu découvres en toi-même l'origine de tes défauts et que l'on puisse t'aider à t'en corriger. Croyez-moi, mes enfants, dit Jésus, beaucoup de confessions sont nulles quand elles ne sont pas sacrilèges à cause du manque de sincérité. Quand vous vous confessez, jetez-vous à mes pieds en exposant tout avec clarté, mais aussi avec délicatesse, avec simplicité et grande foi, mais surtout avec sincérité, en dévoilant la malice de vos fautes à laquelle fera suite votre repentir. Je verserai mon sang sur votre âme, et par l'intermédiaire de mon ministre, vous recevrez de moi une grande lumière, grâce à laquelle il vous sera facile de vous corriger, de vous améliorer et même d'atteindre la perfection. Mes enfants, dit Jésus, priez, priez, les temps sont douloureux, très douloureux, les fléaux et les croix qui menacent le monde sont horriblement grands. Priez le Père éternel, faites intervenir ma maman pour qu'elle adoucisse les châtiments et vous prenne en pitié. Le Père est là de ce monde et ce qui vous attend est effroyable. Priez, mes enfants, aimez-vous, aidez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement, ne gardez des rancunes contre personne, vivez en état de grâce, car les élus seront marqués au front et aucune puissance ennemie ne pourra les vaincre. Mais si vous ne vivez pas dans la grâce de Dieu, vous serez la proie du malin. Mes enfants, dit Jésus, faites pénitence et priez, priez. La dernière heure pourrait être proche. Invoquez mon grand archange Michel pour qu'il protège le monde. Pardonnez les offenses. Écoute-moi, mon ami, dit Jésus. Fais bien attention à mes paroles qui retentiront à ton oreille avec un peu de sévérité et je te prie de ne pas les oublier. Je te parlerai de la loi du pardon. C'est une loi tellement sévère que si tu ne l'appliques pas envers les autres, Dieu lui-même ne l'appliquera pas envers toi. Et si Dieu ne te pardonne pas, qu'adviendra-t-il de toi? Je suis venu par faire la loi. Alors qu'avant ma venue, on pouvait dire œil pour œil, dent pour dent. Par ma venue en ce monde, je vous ai enseigné, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Rendez le bien pour le mal. J'ai enseigné par des paraboles, j'ai enseigné par l'exemple quel doit être le comportement de celui qui veut me suivre, comportement qui n'est pas facultatif, mais obligatoire, au point de devenir pour vous une loi de Dieu lui-même. Rappelle-toi la parabole de cet homme qui devait 100 talents à son maître et qui, ne pouvant les payer, fut pardonné par lui. Mais en sortant de la maison de son maître, l'homme rencontre un ami qui lui devait de l'argent. Il les maltraite et exige cet argent. Quand le maître vient à le savoir, il appelle son serviteur et le fait emprisonner. Cela se passera exactement ainsi. Pardonner est une condition indispensable pour être pardonné. On se servira pour vous de la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré. Veux-tu savoir si le jugement du Père envers toi sera plein de bonté et de miséricorde? Vois si dans ta vie tu pratiques la bonté et la miséricorde. S'il t'est facile de découvrir les défauts de ton prochain, de les juger avec sévérité, comment pourras-tu prétendre à l'indulgence et à la miséricorde? Rappelle-toi que je vous ai donné l'exemple en tout, mais le plus bel exemple, je vous l'ai donné du haut de la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. N'appelle jamais des châtiments sur personne. Invoque lumière, repentir, conversion, amour. Demande toujours à Dieu de bénir ceux qui t'offensent, t'insultent, te calomnient, ceux qui te font du mal, et oublie le mal que tu reçois. Trouve toujours la bonne parole pour les cacher. Si le mal en lui-même est condamnable, celui qui le fait n'est pas toujours coupable. Laisse à Dieu les soins de juger. Le jugement est toujours très difficile, car le véritable mal vient de l'intérieur, il vient de l'esprit et du cœur. Mais toi, que sais-tu de ce qu'ils contiennent? Toi, tu juges d'après les apparences, mais très souvent, de mauvaises actions ont été faites avec de bonnes intentions. Souviens-toi que Dieu sait tirer le bien du mal lui-même. C'est pourquoi laisse-le faire lui. Toi, tu récites maintes fois par jour la prière que je vous ai moi-même enseignée, le Notre Père. Arrête-toi un instant sur ces mots qui devraient faire trembler nombre de mes enfants, lesquels ne savent pas pardonner et couvent dans leur cœur des désirs de vengeance et d'implacable haine. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que de choses vous avez tous à vous faire pardonner. Tous vous êtes pécheurs. Votre faiblesse est telle qu'au moment même où vous promettez de ne plus pécher, vous tombez. Et chaque jour vous m'apportez votre fardeau de misère et de faute. Eh bien toi, tu apportes à Dieu tes péchés et lui te pardonne et oublie tout ce que tu fais contre lui. Mais il te pose une condition, le pardon. Toi, tu n'es pas seul au monde. Tu vis dans ta famille, dans la société, et les membres qui la composent sont tous imparfaits, même les saints. L'incompréhension, la lutte, l'offense sont inévitables. La différence d'opinion, de caractère, d'instruction, d'éducation ferait de la famille et de la société de petits cercles infernaux. Et tu sais combien il est douloureux de vivre dans ces milieux où manque la foi et la charité, et où n'existe pas la justice. Ma présence transforme tout. L'observance de ma loi, loi d'amour et de pardon, transforme les milieux en oasis de paix. Cependant, Les défauts ne disparaissent pas immédiatement, mais on sait les excuser chez les autres plus que chez soi. On sait comprendre les difficultés d'autrui, en un mot, on sait pardonner. Applique-toi, mon ami, à détruire la haine que le malin va semant dans le monde. Commence par toi. J'ai ordonné à mes apôtres de pardonner 70 fois cette fois, et par là je voulais dire de pardonner toujours. Mais cette même chose, je te la dis à toi aussi, pardonne toujours et oublie. Ta vie sera plus sereine. À quoi cela sert-il que tu entasses dans ton esprit les choses passées qui ont été pour toi source de peine? Rappelle-toi les belles choses qui font du bien à ton âme. Pour le reste, laisse aller. À chaque jour suffit sa peine. Porte partout amour et paix. Jette toujours de l'eau sur le feu. Aime tout le monde, indépendamment de leurs mérites et des offenses qu'ils peuvent avoir faites et des douleurs qu'ils peuvent avoir occasionnées. Aime-les tous, par amour pour moi et en moi, et tu jouiras d'une grande paix. La communion. Mon ami, dit Jésus, écoute-moi, je parle au plus intime de ton cœur, et je demeure avec le Père et avec l'Esprit Saint. Je te parle silencieusement, car je n'aime pas le vacarme. Je te parle dans les recueillements et la prière, qu'elle soit méditation ou prière vocale, pourvu que l'amour en soit la base. Je t'en prie, écoute-moi toujours. Moi, je me réjouis de rester avec toi, j'aime ta compagnie. Mon désir est de demeurer dans les cœurs de tous les hommes. Mais nombreux, très nombreux sont ceux qui demeurent indifférents à mes appels et n'aiment pas rester avec moi. Nombreux sont les bons qui un temps m'aimaient et me désiraient et m'ont abandonné. Ils sont accablés de 1000 pensées et préoccupations, ils sont attirés par 1000 choses matérielles. Certains se souviennent à grande peine d'être en ma présence quand ils se trouvent à l'église. La plupart du temps, ils ne sont devant moi qu'avec leur corps. Et je ne te parle pas des âmes sacrilèges qui viennent me recevoir en état de péché mortel. Ma répugnance est très grande lorsque je pénètre dans ce cœur, comme elle serait pour toi si tu t'es placé auprès d'un cadavre en décomposition. Certains ne m'approchent que pour me piétiner. Ils voudraient me détruire, m'anéantir. Je sais qu'ils n'y réussiront jamais, mais leur désir renouvelle en moi la douleur de la crucifixion. Si tu savais de combien d'outrages mon corps est l'objet dans les très saints sacrements. Et cependant, vois-tu, j'ai tout prévu les jours où j'ai institué la très sainte Eucharistie. Et si je n'ai pas renoncé à le faire, c'est parce que j'ai prévu aussi qu'au cours des siècles, des âmes bonnes me recevraient avec amour, feraient de la communion leur délice, leur trésor, leur joie, et que par conséquent, je pourrais déverser sur elles tout mon amour et toutes mes grâces. J'aime demeurer dans le cœur de mes enfants, ne faire qu'un avec eux. Manque de foi et d'amour. Il suffirait d'une communion bien faite pour sanctifier une âme, car ma présence transformerait tout. On invoque de nombreux motifs pour rester loin de moi, mais je t'assure que la raison principale est le manque de foi et d'amour. C'est vrai, vous ne voyez qu'une petite hostie, qu'un peu de pain, mais si vous croyez à mes paroles, ne vous ai-je pas prouvé par mes miracles la vérité de ces paroles? Ne vous ai-je pas parlé clairement quand j'ai institué l'Eucharistie? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Comment devais-je vous le dire? Et tout au long des siècles, n'ai-je pas opéré de nombreux miracles pour manifester ma présence réelle dans les très saints sacrements? Te souviens-tu du miracle de Bolsena, de celui de Turin? N'avez-vous pas vu des bêtes affamées refuser de prendre en nourriture des hosties consacrées et se prosterner en adoration devant elles? La communion n'est-elle pas la nourriture, la force, le soutien de votre âme, comme elle l'a été pour les martyrs, qui en elle ont trouvé la hardiesse de vaincre la mort par leur martyre? Venez, venez à moi, vous tous qui êtes là et ployés sous les fardeaux, vous tous qui êtes dans la douleur et dans le désespoir, vous tous qui ne supportez pas la croix, venez à moi. Je vous ouvrirai mon cœur et vous en découvrirez les mystères, les trésors de sagesse et de science. Je vous ouvrirai le chemin de la sainteté, je vous ferai mes confidences, je vous enseignerai le secret du bonheur même au sein de la douleur. Venez, venez à moi, et s'il ne vous est vraiment pas possible de me recevoir, appelez-moi spirituellement en vous. La communion spirituelle peut quelquefois être plus efficace que la communion sacramentelle si l'ardeur avec laquelle vous m'invoquez est grande. Invoque-moi plusieurs fois par jour dans ton cœur. Ainsi tu renouvelleras la rencontre d'amour, tu raviveras ta foi, tu révaloriseras l'offrande de tes actions, tu les orienteras et les rendras fructueuses. Rappelle-toi que la communion spirituelle est une douce réalité, non pas seulement un pieux désir. Toi tu m'appelles et moi je viens, et si tu m'appelles, c'est que tu m'aimes. Je fais venir avec moi mon Père et l'Esprit Saint, et nous établissons notre demeure en toi. Toi tu deviens notre ciel. Que tes communions bien faites et désirées et préparées, et que tu feras suivre de la plus fervente des actions de grâce, soit une réparation pour les communions sacrilèges, froides et mal faites. Tu me donneras consolation et tu recevras ma bénédiction. L'avarice. Mon ami, écoute bien, dit Jésus, la leçon que tu vas commencer portera sur le thème de l'avarice. Je te dis tout de suite, garde-toi bien d'un tel vice. Il est extrêmement odieux au Seigneur et il apporte beaucoup de malheur à celui qui en est atteint. L'avare ne considère pas ce qu'il possède comme un don des dieux, mais il fait son dieu des choses. Il ne songe qu'à son seul bien-être et ne fait certainement pas don de sa vie à ses frères, mais il ne pense qu'à se procurer des biens à lui-même et à conserver ce qu'il possède. L'avarice est contraire à la charité et à la générosité, vertu si chère à mon cœur, dit Jésus. Les souffrances d'autrui n'émeuvent pas l'avare. Il porte attention à lui-même, à sa santé, à son bien-être, à son confort. Il ne voit pas la nécessité de se priver de quelque chose pour les autres, car il ne considère jamais comme superflu ce qu'il possède, et de ce fait ne pense pas que ce soit un devoir de le donner. L'avare considère Dieu comme le protecteur de ses biens, et il est prêt à se déchaîner contre lui si quelqu'un devait le priver de ce même bien. Tout ce que je t'ai dit se réfère aux avares en général, avares des choses matérielles. Mais ce vilain défaut est aussi le partage de personnes qui fréquentent l'Église et vivent intensément la vie spirituelle. Et ici je te parle de ceux qui voudraient que le privilège et les dons les plus particuliers soient réservés à eux uniquement. Ils en sont jaloux, comme si ce don était breveté. Et non seulement ils ne veulent les faire partager à personne, mais encore ils pensent qu'ils leur sont exclusivement réservés. Cette avarice unie à l'orgueil me déplaît beaucoup plus que l'autre, basée sur les choses matérielles, car elle peut entraîner à de grandes chutes. Celui qui, persuadé de ses propres grandeurs, pense que tout lui est dû, peut facilement se laisser abattre en un moment de privation, au point de perdre la foi et la confiance, sans compter qu'il tomberait probablement dans cet autre péché très grave lui aussi, celui d'envier la grâce et les dons que d'autres possèdent. Elle donne tout, elle aime tout le monde. Nous avons vu la partie négative de ce péché capital, mais je vais te montrer à quel point il est beau d'agir dans les sens opposés. Quand détaché de tout ce qui la lie aux créatures, qu'il s'agisse des personnes ou des choses, de biens matériels ou spirituels, quand détaché de son moi, de son égoïsme, l'âme s'élance vers son Dieu, elle se sent légère et agile, elle se sent vraiment libre. La liberté lui donne des ailes, et avec elle l'âme vole dans la générosité la plus complète, à la recherche de personnes à qui faire du bien, de personnes à aimer, à instruire et à aider. Elle donne tout, elle aime tout le monde. Le monde est trop petit pour son cœur. Elle voudrait avoir devant elle 100 mondes à sauver. Ne possédant rien, Dieu est sa richesse, et en lui elle trouve la force de pardonner et de se sacrifier jusqu'à l'héroïsme. Ô belle génération, que celle des âmes audacieuses et simples, généreuses et héroïques, enthousiaste et ardente, qui donne tout pour tout retrouver dans le sein de Dieu. Que valent les misérables choses d'ici-bas que le temps use et détruit comparées à celles qui sont éternelles? Aimez Dieu, mes chers enfants, dit Jésus, aimez vos frères et sœurs au point de comprendre profondément les besoins de chacun, au point de savoir vous dépouiller pour eux, de vous donner complètement, de savoir vous oublier vous-même, non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Faites vôtre les besoins d'autrui, car le Seigneur désire cet altruisme qui place au premier plan ce qui concerne son semblable. Rappelez-vous, celui qui prie pour les autres thésaurise pour lui-même. C'est une réalité, car aucune prière n'attire plus de regard de bienveillance sur vous que celle que vous faites pour les autres et qui devient un exercice de charité.